Laudetur Jesus Christus.
Hospitalisé depuis 2 semaines, le pape poursuit sa thérapie au Gemelli. Il est de bonne humeur et connaît les intentions de prière pour qu'il repeigne ses forces. À Rome, les pèlerins prient pour lui. Il converge malgré son absence vers la Porte Sainte. En cette année jubilaire, nous retrouverons un groupe de Parisiens au début de ce journal. En Turquie, l'appel d'Öcalan après 26 ans de prison. Le fondateur et chef historique du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, a appelé aujourd'hui le mouvement armé à se dissoudre et à déposer les armes. Un accord cadre aurait été trouvé sur les minerais ukrainiens. Le président Zelensky sera reçu demain à Washington. Vous entendrez les attentes, l'espoir de Constantin Sigov. Il est philosophe ukrainien. Et puis enfin, nous irons en Autriche. Après 5 mois de discussion, le pays s'est doté d'un nouveau gouvernement. Il est formé sans l'extrême droite.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. À l'hôpital Gemelli de Rome, le pape François poursuit donc son traitement. Il a toujours recours à de l'oxygénothérapie. Le Vatican précise que le Saint-Père est informé des nombreuses initiatives de prière organisées pour lui, que son humeur est donc bonne. En revanche, l'audience jubilaire initialement prévue ce samedi a été annulée. Mais les pèlerins du monde entier continuent d'affluer vers Rome en cette année sainte. Cette semaine, le diocèse de Paris organise son pèlerinage jubilaire après avoir franchi les portes saintes de la basilique Saint-Paul hors les murs et de la basilique Saint-Jean de Latran. C'était au tour de celle de Saint-Pierre ce jeudi après-midi. Une messe y a été célébrée par l'archevêque de Paris et c'est en procession depuis le château Saint-Ange que les pèlerins français se sont rendus à Saint-Pierre. Reportage d'Alexandra Sirgan.
Parmi les centaines de fidèles parisiens réunis en procession place Saint-Pierre, Romain, 28 ans, confirmé l'année dernière et en pèlerinage à Rome pour la première fois.
Je sentais que ça m'appelait et puis que c'est la suite du cheminement pour vraiment creuser, comprendre la foi et partager de bons moments avec nous tous pèlerins. On sent l'amour, la fraternité, la paix, ça fait beaucoup de bien quand même.
L'expérience collective du pèlerinage est essentielle selon Père Laurent, l'un des accompagnateurs.
Pour moi c'est très important que de mesurer, comme toujours, l'universalité de l'Église à Rome particulièrement. Et puis le deuxième point c'est de ne pas s'habituer dans notre foi, dans une foi routinière. Tous les 25 ans, ça peut paraître à la fois très espacé puis très fréquent, mais ça fait des repères fixes aussi pour justement faire un bilan de foi, donner un nouvel élan, donner un nouveau départ dans notre pastoral, dans notre manière d'aborder la Bible, dans notre manière de créer des fraternités dans nos groupes, dans nos communautés.
Tous les temps de prière sont dédiés au pape François, d'autant que les fidèles sont pour la plupart logés près de l'hôpital Gemelli.
Certains de nos pèlerins qui m'ont dit on ne peut pas passer devant l'hôpital pour réciter un morceau de chapelet ou un chapelet devant la porte de l'hôpital. Voilà. Donc ça incarne encore plus le rattachement de l'église diocésaine à l'église de Rome.
Et comme tous les soirs de depuis lundi, le chapelet sera récité place Saint-Pierre.
Ce soir, la veillée de prière sera présidée par le vicaire de Rome, le cardinal Baldo Reynin. Et puis à l'occasion de la fête liturgique du moine et mystique arménien Saint Grégoire de Narek, proclamé par François docteur de l'Église, un moment de prière a par ailleurs été organisé cet après-midi devant la statue du saint située dans les jardins du Vatican pour le rétablissement du Saint-Père. En Israël, la police parle d'un attentat terroriste présumé à la voiture Bélier au sud de la ville d'Haïfa, dans le nord du pays. Un véhicule a foncé sur des piétons, faisant au moins 7 blessés, dont un dans un état grave. Cela va-t-il compromettre le cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier? Des négociations devaient reprendre au Caire. Benjamin Netanyahou venait d'envoyer une délégation en Égypte après le rapatriement en Israël des corps de 4 otages contre la libération de 643 prisonniers palestiniens. La paix, on ne peut plus, fragile aussi au sud Liban. Ce soir, le ministre israélien de la Défense assurait que l'armée israélienne allait rester indéfiniment dans la zone tampon à la frontière avec le Liban, en violation donc avec l'accord conclu fin novembre avec le Hezbollah. Sur nos ondes la semaine passée, le patriarche des Maronites, le cardinal Rai, appelait encore au respect de la souveraineté libanaise. Une page se tourne au Moyen-Orient. Le chef du PKK a fait le choix de la paix. Dans une lettre rendue publique ce jeudi, le chef du Parti des Travailleurs du Kurdistan, Abdullah Öcalan, appelle ses combattants à renoncer aux armes contre la Turquie, à prononcer la dissolution du groupe fondé il y a un demi-siècle. L'appel a été lu devant les camarades, d'abord en kurde, puis en turc, par 2 élus du parti pro-kurde DEM, au retour d'une visite, la 3e en 2 mois, d'une délégation de cette formation parlementaire sur l'île d'Imrali. C'est là où Abdullah Öcalan est emprisonné depuis 26 ans. Anand Laouara, Ankara. Le message était attendu, il n'en est pas moins historique. Abdullah Öcalan appelle le PKK à se réunir en congrès pour annoncer sa décision d'abandonner les armes et de s'autodissoudre pour s'intégrer à l'État et à la société. Dans sa lettre, le leader kurde explique que les conditions qui ont présidé à la naissance du groupe armé, à commencer par la négation de la réalité kurde et les interdits imposés aux libertés, n'ont plus cours aujourd'hui. Abdullah Öcalan estime que le PKK a perdu sa raison d'être, ce qui rend nécessaire sa dissolution. Il ne peut y avoir d'autre voie que la démocratie, écrit-il encore, invoquant également la relation millénaire entre les Kurdes et les Turcs. Tous les regards sont maintenant tournés vers le PKK. Ces derniers mois, les chefs militaires du groupe armé kurde installé dans le nord de l'Irak se sont plusieurs fois dit prêts à obéir aux instructions d'Abdullah Öcalan, tout en réclamant pour ce faire de pouvoir communiquer directement avec lui. Les autorités turques n'ont rien promis publiquement à ce sujet. À Ankara, Anadolu pour Radio Vatican.
Fin d'un deuxième round de discussions russo-américaines en Turquie. Les négociations pour trouver une sortie de crise en Ukraine battent leur plein. Moscou juge non négociable l'annexion des 5 territoires ukrainiens qu'elle occupe partiellement. Une requête risible, selon Kiev, qui tente de faire entendre sa voix. Demain, le président Zelensky sera reçu par le président américain. Donald Trump, qui semble avoir obtenu son aide, contre son aide offerte par le passé, un accord cadre sur les minerais ukrainiens. Le deal pourrait être finalisé demain. Konstantin Sigov est philosophe, enseignant à l'université de Moïla à Kiev. Il espère que la voix de son pays sera entendue demain, sinon dans le bureau ovale, au moins par l'autre Amérique soucieuse de la démocratie. On l'écoute.
C'est important, effectivement, que la voix d'Ukraine soit tendue en Amérique. Nous avons vu que pendant la rencontre avec Trump, Macron, justement, a corrigé les fake news que l'Europe participe moins que l'Amérique à notre résistance commune, alors que l'Europe participe plus. Je crois à ce type de correction de notre carte mentale qui doit correspondre à la vérité. Ça passe à travers le dialogue, à travers les corrections de certains énoncés. À mon avis, c'est d'ailleurs, ça fera aussi beaucoup de bien pour cette partie de l'Amérique qui aspire à la liberté, qui est solidaire avec l'Ukraine. Mais une chose est, à mon avis, positive aussi à tirer de cela. Je pense qu'on est bien débarrassé du mythe que notre pays, c'est une sorte de marionnette guidée par l'Amérique. On a vu surtout ce dernier temps que ce n'est pas du tout vrai. Et donc qu'il y a une réelle responsabilité à la fois de l'Ukraine et de l'Europe à prendre au sérieux et développer prochainement.
Des propos recueillis par Jean-Charles Puzelu. Constantin Sigov sera notre invité demain matin à 8h30. L'Autriche se dote enfin d'un nouveau gouvernement. 5 mois après les législatives de septembre, les conservateurs, les sociaux-démocrates et les libéraux sont tombés d'accord pour former ensemble une coalition. La chancellerie revenant aux conservateurs. Le nouvel exécutif devra être investi la semaine prochaine, reléguant ainsi l'extrême droite, victorieuse pourtant des législatives, dans l'opposition à Vienne, Isorias.
Il aura fallu 151 jours pour former un gouvernement, soit la durée la plus longue depuis l'après-guerre. Sociaux-démocrates, conservateurs et libéraux avaient dans un premier temps échoué à s'entendre. Les conservateurs s'étaient alors tournés vers le parti d'extrême droite FPE, arrivé en tête des législatives avec 29% des voix. Mais les discussions n'avaient pas abouti en raison de la radicalité du FPE, formation opposition eurosceptique et pro-russe. C'est ce qui a poussé ces trois partis à reprendre leurs négociations. Ils ont présenté aujourd'hui leur pacte de coalition de 210 pages. Celui-ci contient notamment des économies de plus de 6 milliards d'euros pour cette année. Plusieurs mesures visant à faire baisser l'inflation mais aussi à renforcer la lutte contre le terrorisme et prévoit en matière d'immigration la suspension du regroupement familial. Sur le plan international, l'engagement pro-européen est clairement réaffirmé. Cette coalition inédite en Autriche relègue donc le FPE, qui est aujourd'hui le parti le plus fort en termes de voix dans l'opposition. Le nouveau gouvernement devrait être investi la semaine prochaine. Vienne, Isorias pour Radio Vatican.
Le Royaume-Uni et la France prolongent leur traité contre les migrations clandestines. Le texte permet à Londres de financer une partie des contrôles menés côté français pour empêcher les traversées illégales. Au moins 78 personnes sont mortes en tentant de rallier l'Angleterre par la mer en 2024. En RDC, enfin, le président Tshisekedi dénonce un acte terroriste odieux. Il déplore la mort de compatriotes. Au moins 11 personnes ont été tuées, une soixantaine d'autres blessées, dont 2 explosions ce jeudi lors d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre écoute attentive. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde et bien sûr du pape François revient demain matin à 8h30. Une excellente soirée.